Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1970, lorsque l'écrivain Roger Caillois, qui n'est pas encore membre de l'Académie française, se confie longuement à Janine Worms pour une série d'entretiens à France Culture, il ne s'adresse pas réellement à une inconnue. La dramaturge et femme de lettres a été son élève bien des années plus tôt. C'était en Argentine, à Buenos Aires, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi à cette époque que Caillois fréquente Victoria Ocampo, Jorge Luis Borges et les grandes plumes de la littérature argentine. Une trentaine d'années après ce premier contact, Caillois est devenu l'auteur d'une œuvre pléthorique, de quantité d'essais, de critiques littéraires et poétiques, de récits, de traités scientifiques et même d'un ouvrage poétique sur les pierres, l'un de ses nombreux objets de fascination. Une œuvre pléthorique donc, dont beaucoup de lecteurs ne saisissent pas nécessairement la cohérence. Et c'est ce qui pousse Janine Worms à aborder franchement cette question avec son ancien professeur. Quelle continuité établir entre ses ouvrages de critique littéraire, ses travaux plus scientifiques, et ses écrits sur le rêve, en écho à l'un de ses ouvrages les plus fameux, « L'incertitude qui vient des rêves », publié en 1956. Voici donc Roger Caillois au micro de Janine Worms, premier volet d'un long entretien en 12 parties, première diffusion sur France Culture le 30 mars 1970.
Roger Caillois, vous venez de publier aux éditions Gallimard un livre qui s'appelle « Cases d'un échiquier ». Vous dites de ce livre qu'il est comme le tissu interstitiel de l'ensemble de votre œuvre, et en même temps vous dites que chacune des cases correspond à un des livres que vous avez publiés. Ça me paraît un petit peu contradictoire. Ou les cases correspondent à un livre, et alors c'en est un peu comme la photographie, ou alors c'est ce qui se glisse entre les livres qui en est le tissu interstitiel et qui devrait former alors les éléments de ces cases.
Non, les livres correspondent aux cases, mais d'une façon assez lointaine, n'est-ce pas ? Je ne crois pas qu'il faut prendre cases comme des petits carrés, alternativement blancs et noirs. Les cases, ce sont mes préoccupations. Et mes livres qui sont très disparates, qui parlent de la guerre, du rêve, de la poésie, des insectes, de la fête, etc., représentent des préoccupations qui peuvent sembler différentes et parfois même incompatibles. Aussi, j'ai été frappé de cela et même un peu inquiet. Je n'ai pas voulu les aligner comme dans un échiquier, mais en essayant de trouver ce qu'ils avaient de commun, ce qu'on peut appeler le tissu conjonctif ou le tissu interstitiel, je me suis aperçu qu'ils créaient également des relations obliques entre eux, de sorte que leurs relations étaient plus complexes que celles que j'avais d'abord imaginées.
On peut même en imaginer plusieurs, parce que vous parlez également de la marche des pions, et vous dites qu'elle est différente selon qu'il s'agit du cheval, du roi, de la reine, du fou, etc. Donc on s'imagine qu'on peut se promener un peu à travers ces cases.
On peut se promener et on retrouvera, je crois, les mêmes situations, et des situations qui, comme il arrive aux échecs au cours d'une partie, sont toujours tributaires de la marche des pièces qui a précédé et qui jettent leur ombre sur les nouvelles recherches qui vont suivre.
C'est-à-dire que, quelle que soit la manière dont on aborde votre œuvre, on peut voir qu'elle s'organise toujours comme une perspective bien faite.
Ah, bien fait, je ne sais pas. Je ne suis pas un très bon joueur d'échecs. Et je suppose qu'il y a des coups qui n'aboutissent à rien ou qui aboutissent à la perte d'une pièce ou à une lacune dans la stratégie du jeu.
Au joueur, alors, peut-être de jouer selon l'échiquier que vous lui proposez. Mais vous me parliez tout à l'heure de la diversité des thèmes que vous avez abordés, qui correspond par conséquent à une diversité de votre curiosité. Et en effet, elle m'étonne. Et j'aurais voulu vous demander comment une curiosité s'éveille en vous. Qu'est-ce qui suscite chez vous une des recherches qui ont jalonné votre œuvre ?
Bien, je crois que c'est le mystère. Chaque fois que quelque chose est mystérieux, c'est-à-dire qu'il me fait l'effet d'un problème inintelligible, je suis un peu irrité, pour ainsi dire, et j'essaie de comprendre ce qui se passe et ce qui rend la chose énigmatique. Mais quelquefois, la chose ou le problème ne m'avait pas paru énigmatique au premier abord. Il l'est devenu à l'examen, de sorte que je suscite le mystère, au moins autant que je m'applique à l'examiner.
Ne pourrait-on pas dire plutôt que vous voyez des mystères là où pour d'autres l'habitude mentale fait qu'il ne voit rien, qu'une chose lui semble toute naturelle alors que brusquement vous vous interrogez sur elle parce que vous l'avez étudiée de plus près.
Oui, j'ai un côté paradoxal, c'est-à-dire que ce qui m'a d'abord semblé naturel, brusquement je trouve qu'il y a comme une fêlure, comme une fissure qui fait que si l'on regarde des choses de plus près, ça devient inintelligible.
Vous m'aviez une fois parlé comme ça de la curiosité qui s'était éveillée en vous à propos de l'Arche de Noé. Et en effet, ça m'avait beaucoup étonné.
Eh bien, c'est en gardant une gravure d'un père jésuite du 17e ou peut-être du 18e, le père Athanase Kircher. Je le regardais pour des raisons chinoises, parce qu'il a beaucoup étudié la religion chinoise, il a vécu à Pékin. Vous savez que les empereurs à cette époque-là faisaient venir des jésuites, surtout pour la réforme du calendrier, puis parce que les jésuites leur fabriquaient des feux d'artifice et puis arrangeaient des jets d'eau dans leur parc. Et il y avait une très grande gravure qui m'a frappé, qui représentait l'Arche de Noé, avec la pluie qui tombait, un rideau d'eau de pluie interminable sur les eaux noirâtres et houleuses de la mer. Et alors, devant l'arche s'éboudissaient des poissons. Et c'est la première chose qui m'a retenu, c'est-à-dire que le déluge qui est dans la Bible, que nous avons l'habitude de considérer comme une chose qui est traditionnelle et qui est normale, n'est-ce pas? C'est la destruction de l'humanité et de toutes les espèces vivantes pour rénover le monde, pour faire un monde plus beau, plus juste et plus vertueux. Je me suis aperçu que du fait que c'était l'eau, l'élément aquatique qui en était l'agent, il favorisait les poissons. Alors je me suis mis à écrire sur l'Arche de Noé pour essayer de montrer un peu le côté anormal et injuste aussi, illégitime, d'une destruction du monde qui favorisait les poissons, les grenouilles et tous les animaux dont l'eau est l'élément naturel. C'est l'origine de mon conte Noé, dans lequel Noé, après avoir été le juste par excellence, devient un révolté.
Parmi toutes vos curiosités, il y en a une qui tout d'abord éveille la nôtre, c'est celle que vous portez au rêve. Comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser au rêve ?
Bien, je crois parce que j'ai rêvé. Alors quand on rêve, il est tout à fait naturel que l'on rêve. Et là encore, c'est un peu le même mécanisme qui a joué. J'ai fait comme tout le monde, j'ai cherché la signification des rêves. Et j'ai acheté le livre qui s'appelait alors, le livre de Freud, qui s'appelait alors « La science des rêves » et qui a maintenant trouvé, je crois, un titre qui traduit mieux le sens du mot allemand, « La signification des rêves ». Alors j'ai lu la signification des rêves et j'ai vu qu'au fond, c'était une clé des songes, assez traditionnelle d'ailleurs, mais adaptée à un certain vocabulaire scientifique et à des préoccupations qui reflétaient le fait que dans la civilisation d'alors, il y avait une espèce de refoulement de la sexualité, de sorte que les images rêvées étaient forcément symboliques. Ceci a été pour moi l'occasion d'une réflexion, et en même temps j'appartenais alors au groupe surréaliste, de sorte que le rêve était considéré un peu comme une dictée de l'inconscient, comme on disait alors, et comme un sursaut, une espèce de révolte contre la logique, contre la pensée cohérente, révolte qui était, ou liberté, et qui était assimilée à la poésie. Seulement, mes rêves à moi n'étaient pas tellement symboliques. Il représentait très bien les objets ou les organes sexuels. Ce sont le moindre refoulement. Je sais bien que les psychanalystes diront c'est parce que je suis encore plus refoulé que nature et que derrière ces images pourtant très franches, il y en a probablement d'autres encore plus redoutables qui se dissimulent. Et puis ils étaient assez cohérents, ils étaient très cohérents. Même ils racontaient des histoires, ou du moins j'avais l'impression qu'ils racontaient des histoires et même des histoires d'une logique implacable. De sorte que petit à petit, j'ai retourné un peu les questions que l'on se posait communément sur le rêve, tant dans le milieu surréaliste que dans les milieux psychanalytiques, et j'ai été jusqu'au point de penser que le problème principal du rêve n'était pas celui de son interprétation, c'est-à-dire que les images du rêve n'étaient même pas interprétables, mais que c'était le fait même du rêve et de la possibilité de le différencier de la réalité qui était la véritable question.
Vous en avez même douté, d'ailleurs, je crois, de ce fait même du rêve jusqu'aux travaux du docteur Dément.
Eh bien, pas dans mon livre « L'incertitude qui vient des rêves ». Dans mon livre « L'incertitude qui vient des rêves », c'est uniquement le problème de la distinction du rêve et de la réalité qui m'a intéressé, et cela à partir d'expériences personnelles. Mais étant donné que j'avais été très frappé du fait que le rêve se présente comme un récit à l'envers, puisque quand le rêve est déclenché par un phénomène, par exemple le fameux rêve de
Maurice,
c'est cela, qui est déclenché par la chute du ciel de lit, et où il rêve qu'il est un suspect pendant la Révolution française, qu'il est jugé puis condamné par le tribunal révolutionnaire, qu'on l'emmène à l'échafaud, que le coup retombe, et c'est ce qu'il réveille. Eh bien, il est clair que dans ce cas-là, le rêve a été déclenché par la dernière image, c'est-à-dire par la chute du couperet, qui est elle-même provoquée par la chute du ciel de lit. Cela veut dire que le rêve, premièrement, se passe dans un espace de temps presque nul, presque instantané, et qu'il est reconstitué, enfin qu'il est remis sur sa tête, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'au moment où on s'en souvient, il est déjà si fortement manipulé par l'intelligence qui est en train de se réveiller qu'on en renverse l'ordre chronologique.
Mais induire comme ça toute une structure des rêves à partir du rêve de Maury, n'est-ce pas un peu comme l'anglais qui arrive à Dieppe et qui voit une française rousse et qui en déduit toutes les françaises sans rousse? N'est-ce pas une déduction un peu abusive à partir d'un
C'est une déduction tout à fait abusive si elle était réduite au rêve de Maury. Mais il y a une très grande quantité de rêves qui sont dans le même cas. Il y a tous les gens, par exemple, qui sont réveillés par la sonnerie de leur réveil qu'ils ont mis à l'heure. C'est parce que c'est le premier cas qui a été raconté. Puis on a pris l'habitude de le discuter, mais je crois qu'on peut penser vraiment que beaucoup de rêves, une certaine quantité au moins, se passent en sens inverse de l'ordre dans lequel ils ont été rêvés.
Mais est-ce que par exemple les gens qui sont réveillés par la sonnerie de leur réveil rêvent des trompettes du jugement dernier, parmi d'autres choses?
Ah, ils peuvent rêver de toute chose, puisqu'il y a même Hervé de Saint-Denis qui, avec des disques, n'est-ce pas, et des parfums, a prétendu diriger ses rêves dans son livre fameux, qui était particulièrement à la mode d'ailleurs dans le groupe surréaliste de ce temps-là. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où je me rendais compte que le rêve était manipulé par l'esprit en train de se réveiller, ce qui a toujours d'ailleurs été reconnu. Déjà, Pline, dans ses lettres, dit que raconter un rêve est le fait d'un homme éveillé. Et Paul Valéry, dans son journal, note que rêver est un verbe qui n'a pas de présent. Il n'a qu'un passé. Et c'est ça qui m'a conduit à me demander si le rêve existait vraiment. C'est-à-dire si le rêve n'était pas une illusion du réveil. Si pendant le sommeil, enfin ce qu'on appelle le sommeil profond, il n'y avait pas de rêve, et si ce n'était pas dans l'instant du réveil que les images éparses dans l'esprit commençaient à s'agglutiner, à s'agglomérer d'une façon incohérente, et si ce n'était pas cela le rêve, c'est-à-dire un faux souvenir.
Eh bien, on verra peut-être demain la manière dont ce faux souvenir jette l'incertitude sur l'ensemble de la réalité.
C'était Roger Caillois au micro de Janine Worms, premier volet d'un entretien en 12 parties, première diffusion de cette émission le 30 mars 1970. À suivre.